Oui, c'est très bon.
Bonjour à tous. Nous sommes très contents d'être avec vous encore. C'est la deuxième fois, c'est notre deuxième fois. Et je suis convaincu que ce n'est pas la dernière fois. Je ressens la présence de Dieu ici. Et je crois que le Seigneur, il veut faire quelque chose pour nous et pour toi personnellement aujourd'hui. Je ne connais pas ta situation, mais le Seigneur te connaît très bien. Le Seigneur, il t'aime, il tient à toi. Pour lui, tu es très important. Peut-être pour toi-même, tu dis, non, bon, l'autre est plus important que moi. Non. Le Seigneur m'a chargé de te dire, tu es très important, très précieux pour lui. Il tient à toi. Et il veut faire quelque chose avec toi. Et c'est très différent ce qu'il veut faire parce qu'il nous a donné des différents dons, différentes vocations. Et il ne faut pas que tu te compares avec d'autres. C'est avec toi. Il veut faire quelque chose. Il t'a créé pour un objectif. Il veut que tu entres dans son plan davantage. Ce qui m'a touché ce matin, lorsque je me suis préparé, c'était la première parole réma de Dieu dans la Bible. La première parole réma, la première parole personnelle à quelqu'un dans la Bible. Et c'était après le grand drame, c'était après la chute. C'est après la chute d'Adam et Ève qui ont péché contre Dieu, qui ont désobéi à Dieu. Et humainement, on pourrait penser, bon, maintenant Dieu va parler, il va leur faire des reproches. À la bonne manière française ou bien allemande. Mais cette première parole m'a touché. Et je crois que ce matin, cette parole, le Seigneur veut que ça devienne une parole réma pour toi et pour moi, ce matin. Elle est écrite en Genèse 3, verset 9. Où Dieu se promène dans le jardin, il crie, et c'est comme un cri de son cœur. Et ce matin, c'est un cri de son cœur pour toi et pour moi. Il dit, « Où es-tu ?» Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ?» C'est juste là. Aujourd'hui, il t'adresse cette parole. Où es-tu? Parce que le Seigneur, il t'a créé pour que tu sois avec lui. Et là, il y a un grand drame qui s'est passé. L'homme, il a choisi l'indépendance. Il voulait être indépendant. Moi aussi, je peux faire. C'est comme un petit enfant. Nous avons 3 enfants. À un certain âge, non, papa, laisse-moi. Moi aussi, je peux faire. C'est une bonne chose pour un enfant. Mais Dieu nous a créés pour qu'on vive en partenariat avec lui. Et ici, le Seigneur, la première parole, pourquoi tu es parti? Où es-tu? Pourquoi tu t'es éloigné de moi? Pourquoi tu veux faire les choses seul? Non, reviens, où es-tu? Reviens! On va recommencer. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Pour moi, c'est devenu une parole réma. Le Seigneur me rappelle de revenir à lui. Parfois même, on est tellement occupé avec les choses de Dieu, avec le ministère de Dieu, mais on s'est éloigné de lui. On fait beaucoup d'activités pour, soi-disant, pour le Seigneur, pour l'Église, mais je me retrouve éloigné du Seigneur et le Seigneur m'appelle. Hachim, où es-tu? J'aimerais, vous savez, nous avons vécu parmi des peuples musulmans pendant 20 ans, et lorsqu'on parle aux musulmans, il y a plusieurs conseils, il y a plusieurs choses qui marchent, il y a plusieurs choses. Il faut faire comme l'apôtre Paul, il a toujours créé un pont. Et lorsque tu parles avec des musulmans, c'est bon que tu parles du commencement. Parce que les musulmans aussi croient au commencement. Ils croient à la création. Donc, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un milieu musulman, mais je veux faire comme je l'ai toujours fait. Je veux revenir au commencement. Je veux parler de juste prendre quelques versets clés des premiers deux chapitres en Genèse pour démontrer le plan de Dieu. Et après, je veux le développer pour certains détails pour nous aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts? Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Le Dieu créateur de l'univers et de tout ce que nous voyons lorsque nous regardons les montagnes, les vignes, maintenant pendant l'automne, les couleurs extraordinaires, tellement belles. Ce Dieu, il a décidé de travailler avec l'homme, avec toi et avec moi sur cette terre. Il aurait pu faire tout seul. Non, il a dit, c'est avec vous. C'est avec vous. Avec vous, soyez féconds, multipliez-vous, dominez sur la terre. Ça, c'est son plan. Dieu et toi, vous deux, en équipe. Ça, c'est son plan. Continuons à lire en Genèse 2, verset 15. Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le Seigneur ne voulait pas qu'on s'assoie tranquillement et qu'on chauffe les bancs, et qu'on chauffe les chaises, comme vous actuellement. Vous êtes en train de chauffer votre chaise. Et qu'on attend que l'argent tombe du ciel, que les bénédictions tombent du ciel. J'ai vu plusieurs miracles, mais je n'ai jamais vu le miracle que les euros, ou bien les dollars, ou bien les francs CFA, tombent du ciel. Je n'ai jamais vu. Là, Dieu, depuis le commencement, c'est encore, il le confirme encore. Il dit, vous cultivez la terre, vous travaillez de vos propres mains. À l'époque, c'était des agriculteurs, des éleveurs, mais aujourd'hui, nous sommes des enseignants, nous sommes des policiers, nous sommes des infirmières, des médecins, etc., etc. Mais nous travaillons de nos mains et Dieu bénit. Mais il veut que nous travaillions ensemble avec lui. Dans notre domaine. Pas d'une manière indépendante, mais qu'on reste avec lui. C'est ça son plan. Et là, il veut déverser sa bénédiction. Mais c'est toujours en collaboration. Toi et lui, ensemble. Je veux continuer un dernier verset du commencement, Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Tout récemment, j'ai eu dans mes bras un bébé nouveau-né. Je le regardais, je l'aimais vraiment. C'est chaque fois, c'est un miracle. Comment Dieu a fait ça? Mais ici encore, le même principe se confirme. Comment Dieu l'a fait? C'est un miracle de Dieu, mais il a employé l'homme et la femme pour que ce miracle se crée. Ici, c'est encore un exemple merveilleux pour montrer cette collaboration, ce partenariat entre l'homme et Dieu. Tant que l'homme et la femme ne viennent pas ensemble, il n'y a pas de bébé. Et en même temps, c'est un miracle de Dieu, chaque fois à nouveau. On ne peut pas l'expliquer. Même, il y a certaines personnes, en tant que pasteur, tu es en contact aussi avec des jeunes, nous accompagnons des jeunes qui veulent se marier. Même le mariage ne tombe pas du ciel. Ta femme, ta future femme ne tombe pas du ciel. Ton futur mari ne tombe pas du ciel. Ici, c'est écrit clairement, il y a Dieu qui dirige, mais il y a l'homme aussi qui doit faire quelque chose. Il doit d'abord quitter. Lorsque quelqu'un dit, ah, Hachim, j'ai des rêves, je veux, oh, je crois que le Seigneur est en train de faire des merveilles pour moi, vraiment, je suis amoureux. Après, il faut que je dis, et tu habites où? Non, j'habite encore chez la maman. Hey! Il ne faut pas me parler du mariage. Il faut d'abord quitter. Il faut quitter. Il faut que tu montres que tu puisses vivre en responsable toi-même. Que tu sois responsable toi-même. Il y a des pas à suivre. Et quand même, c'est toujours un miracle comment Dieu conduit deux personnes ensemble. Mais il y a l'action de Dieu, il y a l'action de l'homme et de la femme aussi. Dieu avait préparé Ève pour Adam, ça c'était l'action de Dieu. Mais il fallait que Adam, il se réveille, il voit, oh, c'est elle, oh, elle est merveilleuse. Et il fallait pas qu'il s'assoie et qu'il chauffe les bancs. Et qu'ils disent, Seigneur, fais le miracle pour qu'elle vienne maintenant vers moi. Non, il fallait que Adam devienne actif. Amen. Voyons, depuis le commencement, ça c'est le plan de Dieu. Il aime, il se décidait. Il se décidait de travailler avec des hommes imparfaits, comme toi et comme moi. Et c'est sa joie, c'est sa grande joie, c'est son plan. Et il veut faire des grandes choses avec toi. Mais la clé, c'est que tu restes attaché à lui. C'est pour ça aujourd'hui, cette parole pour toi, pour moi. Où es-tu? Où es-tu par rapport à ces projets que tu es en train de faire? À ces projets que tu as à cœur? Où es-tu? Tu es en train de le réaliser tout seul, peut-être même des beaux projets chrétiens, ou bien tu cherches sa face pour qu'il te dise comment le faire. Tu cherches sa face pour dire, oh, nous deux, nous allons le faire ensemble. Le Seigneur, il veut faire des merveilles. Il veut faire des choses plus grandes que tu peux imaginer. Il y a, en 90, donc il y a 27 ans, l'Église en Allemagne m'a envoyé comme missionnaire en Guinée-Conakry, République de Guinée, un pays musulman, et je me suis dit, donc, Seigneur, je suis prêt à me donner entièrement à toi et à ce peuple. Et j'étais même prêt, je croyais, bon, peut-être ce sera pour toute ma vie, pour le reste de ma vie que je serai en Guinée, je serai en Afrique. Mais le Seigneur ne veut pas qu'on ne suive nos propres pensées. Il faut qu'on reste ensemble avec lui. Et avec les premiers petits pas, très modestes, le Seigneur a fait des choses, je n'ai jamais rêvé à ça. Je n'ai pas rêvé que j'allais un jour de pays en pays. Je ne voulais même pas croire que le Seigneur va envoyer ma future femme en Guinée. Et on s'est rencontrés en Guinée, Sabine et moi. On a travaillé ensemble. Je suis tombé amoureux d'elle. Et nous nous sommes fiancés, nous nous sommes mariés en Guinée. Donc ça, c'était un miracle parce que ma femme, elle est allemande comme moi. J'étais prêt. À l'époque, je me suis dit, bon, Seigneur, si toi tu veux, je suis prêt à me marier avec une femme guinéenne. J'étais entouré par les frères et les sœurs guinéens à l'époque. Mais lorsque tu restes ensemble avec le Seigneur, il va faire au-delà de ce que tu as rêvé. Il va faire des merveilles, il va faire des choses au-delà de tes compétences, au-delà de tes rêves, au-delà de tes possibilités. Parce que toi et lui, vous êtes une équipe imbattable. Avec tes ressources sans fin. Mais si tu veux faire les choses toi-même, tu es toujours limité. J'aimerais parler de quelques points un peu plus pratiques. J'aimerais parler, par exemple, si tu as besoin un miracle de provision parce que l'argent manque. Tu as besoin d'une intervention du Seigneur, tu as besoin d'une réponse du Seigneur pour les finances dans ta famille, pour payer les factures. Peut-être aussi tu as perdu le travail, tu cherches un nouveau travail. Ici encore, le même principe arrive. J'ai vécu pendant des années parmi des peuples très pauvres. Et souvent, il y avait la tendance que mes frères africains tendaient la main. Ils disaient, non, Hachim, toi, tu as des ressources en Europe, en Allemagne. Aide-nous, aide-nous. Je me suis dit, Seigneur, il y a quelque chose qui ne cloche pas. Si on met son regard sur les hommes, même si c'est sur les blancs, on est limité. Jusqu'à un jour, le Seigneur m'a révélé cette parole en Marc 6, verset 37. « Marc 6, verset 37 jusqu'à 38. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à moi. Donc, c'était le miracle de la multiplication des pains. Donc, Jésus a prêché, il y avait des milliers de personnes, et les disciples ont dit, Seigneur, le soir arrive bientôt, il faut renvoyer la foule, parce qu'ici, c'est un lieu où il n'y a pas de boutique, il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de supermarché, et nous, on ne peut pas les nourrir. Donc, avec la sagesse humaine, ils ont agi, ils ont recommandé, ils ont fait des recommandations à Jésus. Donc, il vaut mieux de les renvoyer maintenant. Parce qu'ils ont calculé, ils disent, non, ça, c'est avec plus de 5000 personnes, on estime qu'il y avait 10000 personnes, une foule. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Parce qu'ils avaient encore 200 deniers avec eux dans la caisse. Jésus leur dit, « Combien avez-vous de pain? Allez voir !» Ils s'en assurèrent et répondirent, « 5 et 2 poissons. » C'est intéressant. Jésus se prépare pour faire un miracle extraordinaire. Et comment ce miracle se produit? C'est encore en incluant les hommes. C'est ça ce qu'il aime faire. Il dit, combien avez-vous? Qu'est-ce que tu as? Et ils pensaient, non, ça c'est trop petit. On a juste 5 pains et 2 poissons. Jésus demande seulement qu'on lui donne ce qu'on peut donner, ce que nous savons, qu'on l'apporte. Et après, lui, il va le multiplier. C'est toujours encore le même principe. Lorsque les disciples ont amené les 5 poissons, les 5 pains et les 2 poissons, le Seigneur a prié. Et je crois que le miracle s'est passé à travers les mains des disciples même. Ils ont donné. Je me rappelle du film Jésus. Là, on voyait qu'ils étaient en train de puiser dans les corbeilles pour donner. Et le corbeille, il ne se vidait pas. Donc, en donnant le peu qu'ils avaient, le Seigneur l'a multiplié. Ici encore, le même principe. Lorsque nous avons besoin des finances, lorsque nous avons besoin d'un nouveau travail, lorsque nous avons une requête de prière pour notre provision, le Seigneur va te demander aussi, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que toi-même tu peux apporter? Au lieu qu'on s'assoie, qu'on chauffe la chaise et qu'on... Seigneur, j'attends le miracle. Non, c'est toujours le même principe, mais ensemble avec lui. Et souvent dans cette intimité avec lui, il nous demande de faire un pas, de faire un pas par la foi, avec le peu que nous avons. Et le reste, c'est lui qui le fera. Je veux vous raconter une histoire. Lorsque je suis arrivé en Guinée, premièrement, j'ai marché à pied parce que je n'avais pas de véhicule. Je prenais les MacPana, c'est des taxis collectifs à Conakry. Après, Dieu m'a béni avec une moto. En Allemagne, je n'ai pas de permis pour le moto, on a même interdit à cause de mon handicap, mais j'aurais pu, ce que j'ai fait en Afrique avec les motos, j'aurais pu assister à la rallye Paris-Dakar. J'ai traversé des fleuves, j'ai traversé le sable, j'ai traversé les rochers avec les motos. J'ai des traces un peu partout parce que je suis tombé plusieurs fois. On avait installé un projet agricole, un projet de légumes, de maraîchage dans un village. Et lorsque la récolte se préparait, on priait pour un véhicule. C'était une région enclavée. Et j'allais là-bas, dans ce village, avec un taxi-camion. Sur le chargement du camion, un camion militaire pour aller dans ce village. Et les derniers 9 kilomètres, on marchait à pied dans la brousse. Donc, on priait pour une voiture. Et un matin, je prie encore, et je remercie le Seigneur pour le véhicule. Et là, la parole du Seigneur vient, il dit, « Hachim, prends ta moto. » Va en ville et choisis ton véhicule. Hein? Quoi? Donc je pense, bon, vraiment, ça c'est bizarre. Mais donc, Seigneur, je ne comprends pas, mais je vais t'obéir. Donc je suis parti chez Toyota, dans la maison de Toyota, à Conakry. J'ai regardé les voitures. Il y a le directeur commercial qui est venu et on a négocié. J'ai choisi une voiture. J'ai dit, voilà, c'est une voiture de tel type. Il fallait une voiture 4x4, voiture Toyota de tel type là. Donc, on a négocié. J'ai dit, bon, je travaille pour un organisme humanitaire, chrétien. Oui, je vous donne 10%. Je vous donne 10% de remise. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, je regardais vers la porte, est-ce qu'il n'y a pas, un ange qui arrive avec des grosses valises parce que, avec le franc guignol, c'est pour 1 euro, on te donne, aujourd'hui, on te donne 10 000 francs guignols. Donc, c'est des valises. Bon, l'ange n'est pas venu. Les valises aussi ne sont pas venues. Donc, voilà, j'ai dit, monsieur, je reviens. Donc, je suis parti, j'ai pris ma moto, je suis parti à la maison Nissan. Et là-bas encore, j'ai regardé les voitures. J'ai dit, voilà, c'est tel type de voiture, ça, c'est ça ce qui est bon pour nous. Et le directeur commercial vient, je négocie, parce qu'en Afrique, il faut toujours négocier. Il faut marchander. Donc, j'ai dit, voilà, à la maison de Toyota, on me donne 10%. Non, chez nous, on vous donne 15%. Donc, c'était vraiment intéressant. Je regarde encore vers la porte. Je dis, vraiment, Seigneur, je ne comprends pas. Tu me mets dans l'embarras ici. Donc, je dis, monsieur, merci, je reviens. Je prends ma moto, je rentre en train de secouer la tête. Seigneur, vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. J'arrive et il y a un frère africain de notre équipe. Il me dit, Hachim, j'étais en ville aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. On m'envoyait des fax. On était dans une zone où il n'y avait même pas d'électricité. Donc, on a envoyé un fax à la coopération allemande, dans le bureau de la coopération allemande pour moi. Donc, il y a un de mes frères qui a passé. Hachim, il y a un fax là-bas. Non, on a téléphoné là-bas pour que tu rappelles le numéro là. J'ai dit, oh, ça c'est le numéro de pasteur Christian de notre église. En Allemagne. Donc, j'ai pris ma moto, je cherchais un téléphone, j'ai téléphoné et Christian, il dit, Hachim, c'est intéressant. Il y a des dons qui ont été donnés pour une voiture, pour toi. mais on a aucune idée. On ne sait même pas pour quelle sorte de voiture. Qu'est-ce que toi, tu as besoin? Et attends. J'avais dans ma poche, j'avais un bout de papier où j'avais noté, où j'avais fait les notes pour la voiture Toyota et la voiture Nissan. J'ai sorti mon petit bout de papier. J'ai dit, je peux te dire, c'est la voiture. Nous, on veut avoir la voiture Nissan tel prix. Vous voyez comment Dieu fait des miracles, mais souvent, il aime nous inclure sans qu'on comprenne. Les disciples ne comprenaient pas. Qu'est-ce qu'il faut faire avec 5 pains et 2 poissons? Mais lorsque nous faisons notre pas, lorsque nous faisons ce qui est possible à nous, Dieu va faire l'impossible. Alléluia. Toi et ton Dieu, vous deux, vous êtes imbattables. Un petit détail. Lorsque finalement la voiture, il fallait encore quelques semaines, mais lorsque finalement j'ai eu une Nissan Patrol 4x4, je remerciais le Seigneur un bon matin. Et le Seigneur me rappelle. Il dit, Hachim, tu te rappelles? Avant de partir en mission, tu avais une vieille bagnole, forte, escorte. Et tu l'as donnée à l'église, à un service qui travaille parmi les drogués. Et cette voiture, et ta femme, mon frère, ma soeur, mon père, tout le monde avait dit qu'il fallait que je vende la voiture pour avoir une petite réserve pour aller en Afrique. Non, j'ai dit non, je vais la donner, je vais l'offrir. Et le Seigneur a dit, calcule bien. La valeur de cette voiture était 10% de valeur de cette nouvelle voiture. Ça aussi, c'était un pas. J'avais donné, et le Seigneur, il aime lorsque nous donnons, et il aime multiplier ce que nous donnons. Il a multiplié par 10. J'aimerais parler aussi de la guérison. Lorsque nous sommes malades, le Seigneur a tout accompli sur la croix. Mais pour que le miracle de guérison se manifeste dans notre vie, souvent aussi, il y a un pas à faire pour nous-mêmes. Je vais donner juste l'exemple en Marc 5, versets 27 à 29. C'est la femme avec la perte du sang. Elle était, à cause de cette maladie, elle était exclue de la communauté. Elle ne pouvait pas s'approcher de Jésus d'une manière officielle. Donc, mais au lieu qu'elle reste derrière, on dit, « Oh Seigneur, je suis tellement pauvre, et on ne me permet pas d'aller au public. Seigneur, fais un miracle, fais de sorte que Jésus vienne vers moi. » Cette femme, elle avait la foi, et sur sa foi, elle a agi. Et Jésus a fait le miracle. Mais ici encore, nous voyons ce partenariat. Lorsque l'homme agit, Dieu fait l'impossible. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même verset, merci, pour le verset 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Alléluia. C'est Jésus qui a fait le miracle. Mais la foi, il a honoré la foi de cette femme. Et la foi de cette femme, elle s'est manifestée deux fois. Elle s'est manifestée par la bouche parce qu'elle a confessé. Si seulement je peux toucher le bout de son vêtement, je serai guéri. Elle n'a pas dit peut-être, peut-être ça va marcher, peut-être ça ne va pas marcher, peut-être, 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 non. Elle a dit je serai guéri, point. Et sur cette parole, elle a agi, elle s'est avancée vers Jésus et elle a touché le vêtement. Et la puissance de Jésus l'a guéri. Je veux parler d'un autre domaine pour le salut des âmes. Il y a beaucoup de Français qui ne connaissent pas encore Jésus. Et beaucoup cherchent. Il y a une nouvelle ouverture. Les gens cherchent, mais ils ne savent pas où chercher. Souvent, ils cherchent à des mauvaises adresses. Jésus a déjà tout fait. Il a payé le prix pour notre salut. Il s'est donné en sacrifice. Mais pour que les Français reçoivent l'Évangile, il nous le confie. Nous ne pouvons pas sauver la France. C'est Jésus qui fait. Mais il s'est décidé de compter sur toi et sur moi. Je crois que la dernière fois que je vous ai parlé de ce témoignage, lorsque je voulais renoncer à un voyage missionnaire au village, et je dis, je suis trop fatigué, je ne peux pas y aller. J'ai essayé de me reposer et finalement le Seigneur m'a parlé à mon cœur. Il a dit, Hachim, si tu n'y vas pas, personne ira. Ça m'a tellement touché. Et je crois que cette parole, elle est pour nous. Le Seigneur ne veut pas qu'on s'enferme dans nos églises. C'est une grâce que le Seigneur nous donne, l'église. Mais l'église aussi doit être comme un centre de formation, un centre d'encouragement, un centre comme un centre familial, doit être fortifié en famille pour toucher les gens autour de nous. Les voisins, les collègues de travail, les copains, les amis. Le Seigneur veut nous utiliser comme des témoins. Nous ne sommes pas appelés pour sauver les Français, mais nous sommes appelés pour témoigner de Jésus-Christ, de témoigner ce que Jésus a fait pour nous. Et là, on peut parler de plusieurs domaines, mais aujourd'hui, je me suis dit, je veux parler de la provision, de la guérison, de l'évangélisation. Et je veux aussi parler de la croissance de l'Église. J'étais à l'époque en Guinée et à l'époque je travaillais, on avait installé un centre de formation biblique et j'allais de ville en ville, de préfecture en préfecture pour annoncer l'évangile. À l'époque c'était encore possible, avec le film Jésus, on a annoncé l'évangile dans toutes les préfectures de la Guinée. À l'époque, c'était encore possible de rassembler 2000, 3000, jusqu'à 7000 musulmans. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Parce qu'avec la montée des islamistes, on ne peut plus faire des réunions comme ça dans ces pays. Et chaque année, je prêchais l'évangile à plus de 60 000 personnes. Je n'étais pas encore marié, donc j'étais libre. J'allais... Aujourd'hui, je suis beaucoup plus protégé parce que j'ai risqué d'être tué plusieurs fois. Plusieurs fois, les musulmans se sont rassemblés pour nous attaquer. Pour nous. Il y a des contre-attaques qui sont venues. Et donc, il fallait que Sabine entre dans ma vie pour que je devienne un peu plus sage, un peu plus responsable. Parfois, je me suis dit, Seigneur, par la foi, je le fais. Et si ça tourne mal, ce soir, je serai au paradis avec toi. Plusieurs fois, les gens m'ont menacé, dit, si tu parles, on va te tuer. Et bon, c'était une grâce pour ce temps. Mais après, le Seigneur m'a dit, Hachim, moi, j'ai un plan plus grand pour toi. Il m'a dit, si tu continues comme ça, il faut combien d'années pour que, à l'époque, c'était 6 millions de Guinéens, aujourd'hui c'est 12 millions, pour que tu touches tous les Guinéens. 100 ans. Ah, vraiment, c'est difficile. Donc comment je vais faire? Le Seigneur a dit, non, Hachim, les meilleurs missionnaires pour la Guinée, ce n'est pas toi, ce n'est pas les Allemands, c'est les Guinéens eux-mêmes. Il faut former davantage, il faut leur donner, il faut les responsabiliser davantage. Et je ne pas... D'abord, je dis, non, man. Il y a certaines personnes qui ont dit, non, Hachim, il faut que tu commences un ministère d'évangéliste. Parce que lorsque tu prêches, on a vu des aveugles qui voyaient des boiteux qui se sont levés, qui ont sauté de joie, qui disaient, je suis guéri. Ils ont jeté leur canne. J'ai senti dans mon cœur, non, ce n'est pas ma première vocation. Ce que nous faisons, je retourne à la case de départ. Ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui, où es-tu? C'est là la clé. Le Seigneur a des projets, mais il faut que tu réalises les projets ensemble avec lui. Même si c'est ses projets, si le Seigneur t'a inspiré à faire ses projets, mais tu peux seulement les réaliser ensemble avec lui, en intimité avec lui. Il faut toujours revenir à lui. Et là, quelque chose se passait que je n'ai jamais rêvé de ça. Aujourd'hui, il n'y a pas seulement en Guinée, il y a le Sénégal, le Mali, le Niger, la Guinée-Bissau et la Guinée. Il y a plus de 60 églises, plus de 300 églises de maison. Et il y a 8 écoles bibliques. Et il y a 14 écoles primaires. 3 écoles, 3 collèges qui vont jusqu'au bac avec un lycée. Le travail se multipliait et ce n'est pas moi qui l'a fait. J'ai juste obéi, j'ai investi dans la formation des disciples. Et là, les ouvriers se sont multipliés. Et c'est eux qui ont implanté les églises. Ça inclut aussi, parfois, on doit faire une marche en arrière, un pas en arrière. Et laisser les autres. Même tout récemment, pendant 7 ans, j'étais pasteur à Stuttgart, dans notre église. Il y a certains, lorsque j'ai dit non, nous, le Seigneur nous appelle pour la France, il y a certains qui ont commencé à dire non, non, mais c'est pas possible. On n'a jamais eu un pasteur comme toi. On n'a jamais. Il ne peut pas avoir un meilleur pasteur que toi. Ah non, non, il faut pas trop me flatter. Je crois que le Seigneur travaille toujours du bien au meilleur. Donc, je crois que c'est bon que je cède la place pour que le meilleur arrive. Les gens m'ont regardé. Non, 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 ça ne peut pas être. Ça va se passer. Le meilleur va venir. Toute transition, ça fait du mal. Parfois, ça fait aussi mal. Mais il y a une grande récompense dedans. Lorsque nous avons quitté la Guinée, on a pleuré. Parce qu'il y a comme notre âme était déchirée, parce qu'on a investi nos émotions, toute notre vie. Lorsqu'on a quitté le Sénégal, on a pleuré. Lorsqu'on a quitté l'Algérie, on a pleuré. Et nos frères sur place ont pleuré. Souvent, ils ne pouvaient pas croire. Pourquoi vous partez? Mais comme on a cédé la place pour que les nationaux puissent prendre la relève. Et certains courent avec la vision et leur vision est devenue beaucoup plus. Leur ministère est devenu beaucoup plus grand que le nôtre aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle. Où es-tu? J'ai des grands projets avec toi. J'ai un plan merveilleux pour ta vie. Je n'ai pas fini avec toi. Je veux faire des choses ensemble avec toi dont tu n'as même pas rêvé. Mais il te demande, où es-tu? Ne te cache pas comme Adam. Ne te cache pas par la peur. Viens, reviens à moi. J'aimerais demander que peut-être que notre maman vienne pour jouer au piano, parce que j'aimerais prier. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus, parce que tu nous parles ce matin. Tu nous ouvres les yeux. Tu nous lances ce défi. Tu nous lances cet appel. Tu dis, reviens, reviens, reviens à moi. Merci Seigneur. Et Seigneur, nous voulons répondre à ton appel. Et Seigneur, nous voulons revenir à toi. Et nous voulons dire oui. Nous voulons entrer dans ce partenariat avec toi. Nous voulons faire des merveilles avec toi et pour toi, dans notre ville, chez nous et au-delà de notre ville. Nous voulons le faire ensemble avec toi. Nous voulons réaliser tes projets ensemble avec toi. Merci Seigneur. Je libère ta puissance. Je libère ta présence, ton onction sur chacun personnellement. Au nom de Jésus. J'ai à cœur de prier pour deux groupes de personnes. Bon, premièrement, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'est jamais encore venu à Jésus? Aujourd'hui, c'est l'occasion de recevoir Jésus dans ta vie et il va transformer ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore donné sa vie, son cœur à Jésus-Christ pour recevoir son pardon pour la première fois dans sa vie? Si c'est toi, juste, j'aimerais prier pour toi. Lève ta main pour que je puisse prier pour toi. Alléluia. Merci Jésus. J'aimerais maintenant prier pour deux groupes de personnes. Premièrement, je crois qu'il y a certaines personnes, ils ont perdu cette intimité avec le Seigneur. Ils ont couru, même pour le service de Dieu, pour le service de l'Église, pour les projets de Dieu. Ils ont couru. Et ils ont perdu cette intimité avec le Seigneur. Et le Seigneur t'appelle. Où es-tu? Je veux te restaurer. Je veux aussi restaurer cette intimité. Je veux t'aider à te libérer de ces distractions. Donc, si c'est ton cas, j'aimerais prier pour toi. Et tu peux venir ici vers ma gauche. Tu peux venir devant. Si c'est ton cas, j'aimerais prier pour toi. Et le deuxième groupe de personnes, je veux prier pour ceux qui veulent faire un pas en avance dans ce partenariat avec Dieu. Peut-être Dieu t'a déjà parlé d'un projet, il t'a peut-être déjà parlé d'une vocation, il t'a déjà parlé peut-être d'un service, d'un projet, mais tu ne sais pas encore comment faire. J'aimerais prier avec toi, pour que le Seigneur te révèle quel sera ton pas, ton prochain pas à faire dans ce partenariat avec le Seigneur. J'aimerais prier et libérer cette vocation et cette grâce de Dieu sur ta vie. Alléluia. Levons-nous ensemble. Et peut-être tout le groupe de louanges pourrait venir devant et nous allons louer, adorer le Seigneur. Pendant que nous chantons au Seigneur, pendant la louange, vous pouvez venir devant, ici, pour renouveler votre intimité avec le Seigneur. Et vers le côté droit, à ma droite, si vous voulez faire un pas en avance dans ce partenariat avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Louange le Seigneur.